Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Donc,
voici notre promesse.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
J'avais oublié de brancher mon micro, alors voilà, je viens de brancher mon micro et j'allais dire, les sénateurs ne peuvent pas se permettre une septième défaite de suite. Pourtant, un gros adversaire qui, eux, traverse une séquence de sept victoires. Qui l'emportera? Là est la question, mais il y a toujours espoir. Les sénateurs, on en parle ce soir avec quelques échos de vestiaire. DJ Smith, on parlera également avec Renaud Lavoie, Jacques Martin, Mark Schreiber, Patrick Grandmaître et Vincent Tremblay. Version écourtée, mais tellement compactée! Mesdames, messieurs, bon jeudi, bienvenue. Nous sommes dans le vestiaire, version écourtée, effectivement, parce qu'à 18h30, on fera place à l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il y a un match ce soir au hockey Véronique Lossieur des Sénateurs, les Sens sur la route. Petit voyage de deux matchs, samedi en après-midi, 13h, contre les Flyers à Philadelphie. Mais tout d'abord, ce soir, à Newark, au Prudential Center, au Centre Prudential, les Sénateurs contre les Devils. Un rendez-vous qui pourrait devenir un cauchemar pour les sénateurs considérant l'adversaire de ce soir. 7 victoires de suite. Une grosse machine à bien des points de vue. Une équipe qui a une profondeur, qui est équilibrée. A peut-être perdu une certaine profondeur du fait que leur gardien numéro 1, Mackenzie Blackwood, va manquer à l'appel pour un certain temps. Mais, pour l'instant, Vanecek fait le travail. Puis l'équipe ne donne pratiquement pas de lancer par rencontre. Premier à ce chapitre pour les lancer contre. Un maigre, et je vous dis bien un maigre, 22, c'est-tu 22? Attends, on va juste être, on va remettre mes lunettes. 24,6 par rencontre, c'est pas beaucoup. Comparativement aux sénateurs, sénateurs à ce chapitre sont 22e à 33,3 lancés par rencontre. 33,3 lancés contre par rencontre. Bref, ce n'est qu'une statistique parmi tant d'autres. Un match intéressant, une soirée captivante, on se souhaite beaucoup d'enjeux. Puis de mon aveu même, je vous dirais même que les deux prochains matchs seront très importants pour la suite des choses, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec DJ Smith, pour moi, juste comme ça. Je sonne même, on a une grosse émission, on devrait être discipliné. Jacques Martin, Renaud Lavoie, Patrick Grandmaître, mais également Mark Schreibert, beaucoup d'invités, et notre premier maintenant. En Abitibi, il y a un match revanche, parce que la semaine dernière, ils étaient ici, dans la région de la capitale nationale. Maintenant, les Olympiques vont les visiter, les Huskies, à Rouyn-Noranda, qui attendent de pied ferme la troupe de Louis Robitaille. Il est là sur place, Vincent Tremblay. Vince, comment vas-tu pour une deuxième fois en 24 heures?
J'ai eu peur au début que tu dises Véronique Ducaire au lieu de Véronique Lessieur.
C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Hey, non, mais c'est un gros match en soir.
Ben, c'est ça que j'allais dire, là. C'est un match revanche, puis certainement pour la troupe de Louis Robitaille. Comment tu vois justement l'affrontement ce soir?
Ben, c'est l'affrontement pour le premier rang de la division Ouest, de l'Association Ouest. Il y a un seul point qui sépare les deux équipes. Gatineau qui a un match quand même en main sur Rouyn-Noranda, mais honnêtement, là, je m'attends à un match très serré entre les deux équipes. Puis les Huskies sont surprenants, mais les Olympiques vont devoir montrer quelque chose là, parce que je regardais sur Twitter, Nicolas, là, puis la grogne des partisans commence
ben, à monter. Bon, ben, on va en parler peut-être un petit peu, mais considérant que oui, le match est terminé en prolongation, 4-3 pour les Olympiques, on devrait s'attendre à un autre match serré. Puis comme tu l'as dit, je pense sérieusement de voir les Huskies très près du premier rang, puis se battre pour le premier rang, justement, dans leur division. C'est une équipe surprenante cette année, là. C'est au-delà des attentes, là.
C'est au-delà des attentes, mais c'était dans le plan mis en place par Marc-André Bourdon, qui est maintenant rendu recruteur avec le Lightning de Tampa Bay, qui était directeur général ici. Mais, tu sais, on est allé faire des acquisitions majeures sur la patinoire. Les trois joueurs de 20 ans, c'est trois joueurs qui arrivent de l'extérieur, qui ont un impact avec l'équipe. Le premier, tu le connais très bien, Tristan Allard.
Ah, ben oui.
21 points en 18 matchs cette saison. Et quand tu lui parles de ce qu'il est content de débloquer. Lui, il savait qu'il pouvait marquer des buts. Il savait qu'il pouvait inscrire son nom sur la feuille de pointage. Puis, il n'a pas l'impression, l'an passé, qu'il a été utilisé à sa juste valeur. Cette année, avec un entraîneur jeune, Brad Yetman, ben, il y a du temps de glace à profusion. On va être souvent sur la patinoire ce soir, comme ça a été le cas à Gatineau, mais c'est un gros joueur qui joue gros. Les Européens aussi, Daniel Bourache.
Tristan, as-tu commencé à vous parler en français un peu là-bas?
Ben, avec moi, il parle toujours français. Ouais, parce que oui, nous, pendant les entraînements, on a des entrevues entre la première et la deuxième et la troisième. Puis, il utilise des fois des mots en anglais, mais est en confiance. Les gens ici l'apprécient, puis il y a une grosse population anglophone, peut-être pas autant qu'à Gatineau, mais en raison des mines, là,
il
y a beaucoup de travailleurs miniers anglophones, donc peut s'adresser à la foule.
Lui vient pas loin, son père, la famille reste à Kanata ici, pas loin, si je ne me trompe pas, puis son père affilié avec l'Avalanche, qui a soulevé la Coupe cet été en plus.
Sean.
Ben oui, c'est ça, là. Donc il a été inspiré certainement, c'est peut-être une des raisons pourquoi il débouche de même cette année.
Oui, c'est sûrement un des facteurs d'avoir son père avoir soulevé la Coupe cette année. Je sais que pendant le camp d'entraînement, il avait pris quelques jours de congé pour justement être là la fameuse journée où la Coupe débarquait à Kanata chez la famille Allard. Je sais que sa mère veut absolument qu'on dise Allard et non Allard. Ouais. L'an passé, c'était le gros problème. On dit-tu Allard ou on dit Allard? Oh. J'ai demandé, il m'a dit, ma mère, elle dirait Allard. Fait que je dis Allard. J'ai dit Allard.
Parle-moi de ça. Ça se termine en quelle faveur ce soir pour toi? Est-ce que tu as un point fort d'un côté ou de l'autre?
Moi, j'ai l'impression que Rouyn-Noranda, avec les atouts que je t'ai nommés en défensive, Édouard Cournoyer, joueur qui en est à sa quatrième saison, vétéran dans la Ligue, donne toujours des grosses mises en échec. Le gardien de but, Thomas Couture, qui fait le travail à Rouyn-Noranda. On va vouloir aller chercher une grosse, grosse victoire, surtout qu'on a un de nos meilleurs joueurs chez Husky qui n'est pas là, Bill Zonon, joueur recrue, 16 ans, 15 points cette année, au championnat des moins de 17 ans. Brad Yetman, l'entraîneur-chef également, c'est Reggie Bois, l'adjoint. Et un ancien des Olympiques qui est derrière le banc, Benjamin Bohémier, avait joué, je crois que c'est en 2013 ou 2014, avait joué des matchs, soit deuxième tour en 2012, 28e au total, avait joué quelques matchs sous Benoît Gros.
Oh. On m'a dit que dans le vestiaire des Olympiques, on m'a susurré à l'oreille que c'était pas au beau fixe. Je vais tenter d'en savoir un petit peu plus, mais je veux pas aller plus loin. Mais apparemment que le dernier match, Warren a fracassé son bâton.
Mais demain, les cataractes de Daniel Renault, le Gatinois, sont de passage à Rouyn-Noranda.
Là, tu te fais le détour parce que t'as entendu quoi toi aussi?
Je m'en vais directement dessus. Là.
Okay.
Je tire, je suis dans l'enclave, puis je vise le top corner pour toi, Nick.
Vas-y.
J'ai posé la question. T'as-tu entendu parler de ça, Dan? De la situation dans le vestiaire des Olympiques? Le mot court. C'est ce que j'ai à dire. Le mot court, puis je pense que ça court pas mal vite.
Mon chum, on sait ça
dessus. Moi, par exemple.
Je te souhaite un cheeseburger double bacon chez Maurras après la game.
Ah non, c'est rendu de la bouffe santé à l'aréna ici à Rouyn-Noranda.
Non!
Des Pokéballs.
Des Pokéballs?
Fini la poutine.
Fini la poutine. Ah, mais là, c'est un sacrilège, ça, là. C'est un sacrilège. Mais je te souhaite un bon Pokéball de bord.
Merci, toi aussi, bon match.
Salut, mon chum. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, hein? Puis, vous l'entendez ici, là. Ça brasse dans le vestiaire des Olympiques. On m'a raconté un petit quelque chose. Mais je ne veux pas tout de suite y aller parce que j'attends d'avoir d'autres informations, mais ouais, ça brasse. Ça brasse-tu dans le vestiaire des Sénateurs? J'espère que pas. J'espère qu'on est tous au beau fixe parce qu'on a besoin de la part de tout le monde à 100%. Que voit-il ce soir pour l'affrontement? On n'a pas nous autres. Mais merci à nos amis de Sense TV. DJ Smith a aimé le jeu de JBD. Certainement, puis va nous dire comment il voit l'affrontement de ce soir. Voici M. Smith.
I thought, for a guy in his first game, I thought he moved the puck well. I think defending's always been his strength, and he continues to get better at that. But his puck touches were good, moved it up very quickly, and looked comfortable.
What did you do on the practice ice yesterday to emphasize the positives that you took from the Vancouver game?
Well, I think we have to continue to be good in the offensive zone. You know, we get lots of chances. You know, we got to bury them, but we continue to do well in that area. And I just thought we got away from it in the third period. I think at this point, you've got to really start to bear in on everything positive. Find positives, find more positives. Let the guys know what they're doing good.
What's your pre-scout tell you about the Devils?
Real fast, clearly. Rush scoring. You know, also very good in their own zone. They don't give you a lot. You know, a team that's playing in five and clearly playing with confidence right now. But everyone's good in this league. So we'll dissect what they do well, and we're going to go out and do what we do well.
It's the first time we get to talk since the Zaitsev waiver. I mean, you've always been supportive of a veteran. What are your thoughts on that news?
I'm supportive of all our players, and that's what a coach should be. And, you know, that's part of sports. The organization has made that choice. And it happens sometimes for all kinds of different reasons. You know, and if he gets claimed, I wish him all the best. If he doesn't, you know, and he's still a part of this, and he's, you know, we're going to work with him to get his confidence. And you know, if he plays or whatever the situation is, we'll be there to support him.
DJ, can it be a good thing to be playing a team like Jersey that's on such a roll tonight?
Absolutely it is. I think clearly you're the underdog. People are, you know, kind of stepping on us and pushing us when we're down. And that's perfect time to stick together. And you know, to get a win and grind one out against a real good team is exactly what you need in this situation.
C'est exactement ce qu'on a besoin. Affronter une des équipes les plus hautes en ce moment du circuit Batman pour nous ramener dans le droit chemin. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, Zaitsev, pas réclamé, mais pour lui, il l'encourageait. Il dit « Je protège mes joueurs. S'il revient, ben tant mieux, on va le supporter. Puis sinon, ben on va lui souhaiter la meilleure des chances. » Ben nouvelle, c'est qu'il est de retour. En tout cas, on l'a pour l'instant, à savoir s'il va faire partie de la formation à un moment donné. Mystère et boule de gomme. Ce soir à 19h, le hockey Véronique Lossière des Sénateurs. On parle Ligue nationale avec Renaud Lavoie. Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Oui, ça va pas pire. Ça pourrait aller mal, par exemple, pour les Sénateurs. Donnes-tu cher de la peau des Sénateurs oui. Ce soir?
Mais là, écoute...
hey, tu commences non. Mal. Avec...
non, mais... Ça marche pas, là. Ça fait quand même plusieurs semaines, toi, puis moi, qu'on en parle, là, ouais. Depuis le début de la saison, là. Puis, tu sais, quand je vois le nombre de défaites de suite, on est rendu à quoi? Six, là, je me trompe
ouais.
pas.
Six.
Bon, tu sais, six défaites de suite, c'est pas normal. Puis là, ben, tu t'en vas jouer contre les Devils du New Jersey. En passant que le match soit au New Jersey ou à Ottawa, ça changera absolument rien.
Je suis d'accord.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu penses qu'un match contre les Devils, c'est ça qui va te relancer, tu te trompes. Les Devils, là, ils sont pas faciles à battre. Si tu veux, là, c'est d'une certaine façon la surprise dans la Ligue nationale de hockey, les Devils du New Jersey. Alors, il va falloir que tu te lèves de bonne heure pour les battre. Et j'ai l'impression que les équipes jouent contre les Devils un peu comme les équipes qui jouent contre le Canadien. On les prend un peu à la légère. Puis, ce qu'on se dit, ah, pas si pire que ça. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir le match de ce soir. Est-ce que c'est un match pivot? C'est surtout ça. Quand je dis pivot, pour plusieurs raisons. Pivot, tu gagnes. Est-ce que c'est le match qui est capable de relancer ton début de saison? Pivot, tu perds. Là, il y a des maudites questions à se poser, par contre. Là, il y a des sérieuses questions à se poser. Je pensais jamais... Je sais que c'est dans l'air. Là. Il y a depuis qu'on se parle ensemble, depuis le mois de septembre, dès le jour 1, DJ Smith par-ci, DJ Smith par-là. Et là, Pierre Dorion, un peu plus tôt cette semaine, qui fait une sortie. Là, écoute, à un moment donné, moi, je t'avais dit, soyons, attendons peut-être un autre deux semaines. Mais je me demande jusqu'à quel point attendons un autre deux semaines pour continuer dans cette direction-là. Parce que Pierre Dorion travaille fort, tu sais, qui était au Centre Bell hier. Hein?
Oui, mais il nous avait dit avant de partir à l'entraînement hier matin, il dit « Là, je m'en vais à Montréal, faites-vous-en pas, c'était prévu au calendrier. » Il a pris la peine de nous le dire.
Oui, mais... ouais. OK, je peux te dire aussi que était prévu au calendrier un match entre les Sénateurs ou les Jugés ce soir. Oui. puis c'est quoi au calendrier, là?
Il était à trois
des... Samedi, les Canadiens reçoivent les Pingouins au calendrier.
Il était trois des Sénateurs à part de ça hier au match.
Hein? Oui, non, une délégation.
On chope-tu, hey, on chope-tu du côté de Vancouver ou de Montréal, selon
toi?
Oui, je
pense que c'est plus du côté de Vancouver.
Ouais.
Je pense que c'est beaucoup plus du côté de Vancouver, pour être honnête avec toi. Puis, tu sais, de ce qu'on me dit présentement, ce qui circule dans la Ligue nationale de hockey, c'est évidemment qu'est-ce que les
Luke Shen, Ethan Bear, Ekman Larson.
C'est la question, là.
Myers.
La question, c'est Bo Horvat.
Mm. Oh.
La vraie question, c'est Bo Horvat. Est-ce que Bo Horvat va signer avec les Canucks? La réponse semble être non. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on fasse, qu'on transige rapidement? Qu'il y a une équipe de la Ligue nationale qui sorte rapidement Bo Horvat de l'équipe? Bonne question. Mais de ce qu'on me dit, c'est que les Canucks sont à la recherche d'un joueur de centre et d'un défenseur top 4. Là, à partir de ce moment-là, bien, il faut arriver aux conclusions qu'on veut, là, d'une certaine façon, là, mais...
En tout cas, ça serait pas une bonne affaire pour nous autres, parce que nous autres, on a besoin d'un top 4 aussi. Alors...
Alors, c'est tout ça, là. Il y a beaucoup plus, je te dirais, à cette période-ci de l'année que normalement,
Savard, l'équipe en panique. Savard est-il un bonhomme qui pourrait être transigé?
David?
Oui.
La journée que David, que Kent Hughes va rentrer dans le bureau de Martin Saint-Louis pour lui dire on échange David Savard. C'est bien gros que Martin Saint-Louis le regarde en lui disant si tu l'échanges, tu m'échanges aussi.
Alors, ah ouais. Martin a de la poule de main.
Non, mais Martin, c'est là, oublie pas une chose, hein. Je ne sais pas comment ça marche ailleurs, mais je peux te dire comment ça marche pour le Canadien.
Oui.
Là, c'est là où ce que je viens de te dire peut-être n'aura pas... Il faut être prudent, là, mais Martin décide de son line-up. Puis les dirigeants de l'équipe, eux, décident qui on transige. Mais il faut quand même que tu travailles avec ton entraîneur.
Ah ouais.
Tu comprends? Il faut que tout le monde travaille main dans la main, sinon ça ne fonctionne pas comme façon de travailler. Mais au-delà de tout ça, tu sais, David Savard, non. C'est sûr que c'est Mike Matheson qui va revenir au jeu bientôt. Mais en même temps, est-ce que Joel Edmondson est-ce qu'il est à 100%? Il y a encore des petites questions de ce côté-là. Là, les Canadiens, ça va bien. Ça va beaucoup mieux que prévu. Puis, à cause de ça, ben, tu veux pas toucher à grand-chose.
Ça change-tu les plans de l'organisation, ça?
Ben, les plans. Dans un sens, oui, mais en même temps, on va être prudent.
Tu sais, gars, je vais prendre un exemple. Je comprends que c'est du hockey junior, mais hier, James Boyd, le directeur général de l'équipe nationale, mais des 67 d'Ottawa, qui disait pas plus tard qu'hier que maintenant que l'équipe performe de ce niveau-là, ça change les plans. Est-ce qu'on pourrait voir un scénario similaire du côté du Canadien?
Oui, mais là, en bout de ligne, il faut que tu sois prudent aussi. Moi, je pense que ça... Est-ce que ça peut être hybride? Je m'explique. Jonathan Drouin joue du bon hockey, mais admettons qu'il y a une équipe qui cogne à la porte qui disait on est intéressé à aller chercher Jonathan Drouin, Kent Hughes ne s'y opposera pas. Parce que c'est un gars qui est sans contrat à la fin de la saison. Si on appelait pour Dadonov, ce serait la même chose. Quand je te dis que c'est hybride, c'est que si ces deux gars-là performaient à un très haut niveau présentement, puis seraient des joueurs qui ont un impact majeur dans l'équipe, là, on aurait vraiment un gros débat,
ouais,
à savoir, hey, qu'est-ce qu'on fait, là? On les signe-tu, ces gars-là? Mais c'est pas ça qu'on a, là, présentement, là. Pas du tout. Alors, c'est pour ça que je te dis, le plan reste le même. On va tenter de se départir si un jour quelqu'un veut Dorfman, mais ça, c'est presque impossible. Mais ces trois gars-là font partie, si tu veux, d'un scénario là où ils pourraient être échangés.
Dis pas que c'est impossible pour Hoffman. La façon qu'il marque en ce moment, tabarnouche, ça pourrait intéresser quelqu'un.
Deux autres saisons de... Ben, il y a deux autres années avec ça. Je ne penserais pas. Ou une autre saison, mais peu importe. Là, c'est pas un joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Alors, oui, le plan change. Parce que le plan, c'était... Ben, on finira pas dernier, mais on finira pas... tu sais, on va finir, si tu veux, entre 32... et 22, ça se peut que ça soit encore ça en passant. Tu sais, Parce que...
Non, il devrait avoir un retour anormal à un moment donné, là.
Ben, je veux pas, comme on dit, mouiller sur la parade. Ou encore, comme coach Sancartier dit, cracher dans la soupe. Hein, coach Sancartier dit ça des fois. Je veux pas cracher dans la soupe.
Alain, tu dis ça souvent, cracher dans la soupe.
Il semble que j'ai entendu.
Oui, il confirme ça.
Merci. Tu vois comment j'écoute, Alain? Je peux pas me l'enlever. Bon, je veux pas cracher dans la soupe. Mais il y a une réalité, j'en parle justement avec Jean-Charles ce soir, c'est que si tu regardes les Canadiens offensivement, c'est pas extraordinaire, dans le sens que statistiquement parlant, on domine pas. Défensivement, on est correct. Mais t'es correct pour une raison. Tu n'as pas beaucoup de lancers en moyenne par match en ta faveur, mais t'en donnes en tabarouette. C'est la huitième équipe qui en donne le plus. Alors, qui fait la différence? C'est quoi la différence chez les Canadiens cette année?
La défense.
Regardez pas Caulfield, Suzuki, qui sont très bons, là. Ou Kirby Dack. On n'enlève pas ce que ces gars-là font, là. S'il vous plaît, c'est eux autres qui ont à peu près 50% de la production offensive. On peut pas dire que ces gars-là sont pas bons. Mais est-ce que ce sont eux qui peuvent faire la différence, faire gagner l'équipe? Non, parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils peuvent pas être tout seuls. Ceux qui font la différence, sans aucun doute, c'est Jake Allen et Samuel Montembeau. Parce que ces gars-là permettent aux Canadiens de connaître des bonnes séquences comme celle de cette semaine. Si c'est pas de Jake Allen, mardi soir à Détroit, les Canadiens sont pas de là avec deux points. Hier, vous allez me dire que c'était pas nécessairement un match pour où Samuel Montembeau a dû faire beaucoup de gros arrêts. Je suis d'accord avec vous. Mais en bout de ligne, en début de match, quand c'est 0-0, il fait deux gros arrêts pour permettre à son équipe par la suite de dominer la première période. Si c'est 1-0 ou 2-0 en partant, comme ça a été le cas du côté des Canucks, on n'était pas capable d'arrêter la rondelle, ça aurait été une autre soirée, là. Ça aurait été un scénario très différent. Donc, ce sont deux gardiens de but, en passant, qui sont deux... Ces deux gardiens de but-là, là, c'est l'équipe, dans le fond, qui a le plus d'occasions de marquer de grande qualité contre eux. Les seuls qui font pire, laisse-moi vérifier mon tableau que j'ai envoyé, c'est les Ducks d'Anaheim. Alors, arrêtons, là. Commençons pas à regarder, ah, les défenseurs sont bons. Non. Il y a une raison. C'est tes goalers. C'est eux autres qui donnent les matchs. Puis, est-ce que ça va continuer? Ben là, c'est eux autres qui ont la réponse. Mais si eux autres commencent à flancher, même si le Canadien se met à scorer des buts, même si soudainement le deuxième, troisième trio devient tout feu, tout flamme, mais tes gardiens de but, eux autres, reculent dans leur performance, tu ne gagneras pas.
Je veux terminer en t'entendant sur la Coupe du Monde. D'après ce que tu avances, en 2024, ouais. On va oublier ça?
Ben, on oublie ça, oui, tout à fait, parce que c'est très complexe là, comme dossier. Je vais te le résumer en pas grand temps. On a un problème, évidemment, en Russie. OK? Bon, évidemment qu'on ne dira pas aux Russes « Venez à la Coupe du Monde sous votre drapeau. » Bon. Mais en même temps, on ne peut pas dire « Hey, en passant, on va organiser une Coupe du Monde, mais avec pas de Russes. » OK? Attends. Ça, c'est un tournoi de la Ligue nationale de hockey. Tu dis, nous autres, on veut pas de Russes, mais tu les laisses jouer dans ta ligue.
Ouais.
Tu comprends? Là, ça veut dire, t'imagines-tu la patate chaude, là? Elle est très chaude, la patate. Là, tu dis, ben là, Seigneur du bon Dieu, regarde, t'es obligé de reporter ça, là. Parce que ce tournoi-là a besoin de la Russie, a besoin des meilleurs joueurs russes. On commencera pas à faire un tournoi qui va être un tournoi Canada-États-Unis. Mais il faut que tu amènes une plus grande force européenne. Pour pas que, tu sais, puis il n'est pas question, on s'entend de commencer à dire, mais faisons comme la dernière fois, une équipe
d'Europe.
Ben, c'est
ça, faut que tu fasses.
Ouais, mais attends.
T'évites ça, là.
Penses-tu qu'un joueur, écoute, probablement slovaque, parce que les Slovaques faisaient partie de l'équipe européenne, va vouloir jouer avec des Russes?
Non. Ça, poser la question, c'est répondre pas mal.
C'est ça. Alors, tu sais, là, ça sert à rien, là. Les nouvelles, par contre, s'améliorent dans ce conflit-là en Ukraine. Là, tu vois que les Russes sont en train d'en manger une sérieuse. Mais tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Oublie pas que ce tournoi-là en 2024, il est pas en septembre 2024, mais il serait plutôt 6 mois plus tôt, au mois de février 2024. Mmh. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Si tu le mets au mois de septembre 2024, tu as le temps encore de voir venir. Mais là, tu enlèves 6 mois à ton calendrier, puis tu s'en vas au mois de février 2024 avec le tournoi qui va être pendant la saison régulière. Alors, à partir de ce moment-là, ça te laisse même pas un an et demi. Il faut au minimum un an et demi avant de faire l'annonce puis de tout ficeler ça. D'ailleurs, il faut que tout soit ficelé avant de faire l'annonce. Et là, je te dirais pas que tout n'est pas ficelé. On m'a dit que l'Association des joueurs de la Ligue nationale ont travaillé très, très fort au cours des dernières semaines, des derniers mois, pour faire avancer le dossier. Mais en attendant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on a encore un conflit en Ukraine, ben tant aussi longtemps que ça dure, cette folie humaine-là, ben il n'y en aura pas de Coupe du monde.
Que la Ligue nationale de hockey prenne son temps pour faire les choses de la bonne façon. On se laisse là-dessus, mon ami. Bon week-end et on se dit à mardi prochain.
Porte-toi bien, Nicolas.
Bye-bye. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, de TVA Sport, notre ami à nous, l'ami dans le vestiaire, deux fois la semaine à part de ça, à 17h40, les mardis et les jeudis. Plusieurs matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey, en plus du match qu'on vous propose au hockey Véronique Le Sieur des Sénateurs à 19h. Les Sens contre les Devils. Il y a les Flames qui visitent les Bruins à Boston. Les Flames qui ont perdu leur repère. Les Flames qui doivent retrouver justement le chemin de la victoire. C'est un peu dans le contexte des Sénateurs. Tu affrontes une des grosses formations du circuit Batman en ce moment. Alors, le défi est de taille. Vegas, une autre formation qui va très, très bien, puis qui affronte une équipe quand même surprenante. En ce début de saison, les Sabres de Buffalo, même si en ce moment, ben, se retrouvent à 14 points. On a perdu un peu, mais faites-vous-en pas. L'espoir est là, puis on nous a démontré que c'est une équipe rapide et qui a du potentiel à part de ça offensif. Alors, j'aime bien les Sabres de ce début de saison. San Jose à Saint-Louis. Saint-Louis qui va très, très mal. 8 défaites de suite. Bref, des matchs qu'on va regarder ce soir en plus du match au hockey Véronique Le Sieur des Sénateurs. On va rejoindre Jacques Martin qui nous attend. Jacques, comment vas-tu?
Ça va bien, Nicolas.
Jacques, tout le monde semble vouloir se manifester pour hacher les Sénateurs. T'as pas une couple d'amis qui ont des poches pleines, toi, qui veut hacher ça?
On va laisser ça pour les autres. pas dans cette catégorie-là.
Écoute, parlons un petit peu plus sérieusement, puis c'est sûr que dans l'univers des Sénateurs, c'est pas nécessairement Jojo en ce moment, 6 défaites de suite. Comment on fait pour, justement, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et surtout faire en tant qu'entraîneur pour gérer ça et pour garder les esprits à bonne place?
Bien, je pense que l'importance dans une situation comme les Sénateurs se retrouvent dans le moment, premièrement, c'est mettre l'emphase sur le processus, non pas le résultat. Je pense que gagner, perdre des matchs, c'est un résultat de faire bien les choses ou de pas les bien faire. Donc, je pense que les entraîneurs doivent mettre l'emphase sur les points qui sont importants. Comme dans cette séquence-là, il reste quand même que je pense que c'est une équipe qui peut marquer des buts. Donc, c'est une équipe qui doit peut-être se resserrer sans la rondelle. Et aussi garder le ce qu'on dit en anglais, le mood, l'atmosphère de l'équipe positif. C'est important de ce que tu as des défaites. Là. Souvent, les joueurs prennent ça très à cœur et la tendance, c'est de perdre ta confiance et de te décourager. Donc, comme entraîneur, c'est important de bien démontrer les choses qu'on fait de bien chez les Sénateurs dans le moment et peut-être un ou deux éléments qu'on peut améliorer, qui peuvent changer les résultats. C'est important de ne pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Chaque match, un match à la fois. Puis, je pense qu'ils vont s'en sortir. C'est quand même une très bonne équipe de hockey. Ils ont fait de bonnes acquisitions lors de la saison morte. Ils ont ajouté de la profondeur à leur attaque. Oui, en défensive, on se cherche un peu, mais souvent, on a tendance à pointer les défenseurs, mais il reste quand même que lorsque tu n'as pas la rondelle, c'est un jeu d'ensemble. C'est un jeu, si les avants se replient, les avants font du bon travail, les défenseurs, on joue plus à 5 contre 5 au lieu de de regarder les individus. On travaille plus en équipe. On peut être quand même connaître du succès. Puis je te donne comme exemple les Bruins de Boston.
Ouais.
Qui aurait pensé avant le début de la saison? Ils vont commencer la saison sans Marchand. Ils vont commencer la saison sans McAvoy. Grizzly, deux le défenseur clé. Donc, il y avait des gars qui étaient absents, mais je pense que c'est leur culture et leur travail d'équipe qui leur a permis d'être une des meilleures équipes de la Ligue à ce moment-ci du calendrier.
Petite victoire, 5-5, on va les mettre demain, puis on espère qu'on va pouvoir appliquer ça ce soir pour la troupe de DJ Smith. Je vais t'entendre sur un des sujets qui a été annoncé au cours de la semaine. T'es pas sans savoir que Chris Neal, maintenant, aura l'honneur suprême, c'est-à-dire qu'on va retirer son chandail numéro 25 le 17 février prochain. Pour toi qui l'as bien connu, tes impressions, et pour certains, ben, il méritait pas tel honneur, mais tout de même, je dis au-delà des chiffres, c'est un bonhomme qui a marqué quand même l'imaginaire des partisans, là, puis l'histoire, évidemment, des sénateurs. Là.
Mais c'est exact, Nicolas. Je pense, si tu regardes, je pense qu'il a joué toute sa carrière avec les sénateurs. Oui. Est-ce que je me trompe?
Oui, non. Tout à fait.
Donc, c'est un joueur qui a fait sa carrière au complet. Je pense qu'il demeure encore à Ottawa. C'est un gars qui est impliqué dans la communauté. Il est impliqué avec l'équipe. Chris, oui, c'était pas une vedette en ce qui concerne les points, mais c'est quand même un joueur qui avait beaucoup de caractère. C'est un joueur qui apportait énormément à l'équipe. Puis moi, je suis très content de voir que l'organisation le reconnaisse et qu'il retire son gilet. Le fait qu'il ait joué toute sa carrière à Ottawa, le fait que c'était un leader dans l'équipe, c'est un joueur avec énormément de caractère, un joueur qui se présentait à tous les soirs. Et je pense que c'est bien mérité de sa part, puis c'est un beau geste de l'organisation de le reconnaître.
Est-ce que c'est juste de croire que la génération auquel il fait partie, c'est celle qui a démontré une ligne où on a transformé un peu le rôle que ce genre de joueur-là avait auparavant? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu comprends tout ce que je m'en vais avec ça? C'est que le rôle qu'il avait comme matamor, redresseur de tort, n'est plus nécessairement ce rôle-là qu'on retrouve dans le hockey de nos jours, là.
Non, je pense que l'aspect qui a toujours été un gros atout avec Chris, et une des raisons qu'il a joué toute sa carrière à Ottawa, c'est que, oui, il apportait cet élément-là à l'équipe, mais aussi il pouvait contribuer. C'est un joueur qui contribuait sur la feuille de pointage, le nombre de mises en échec. C'est un joueur qui comprenait bien le système, qui pouvait bien performer quand même. Donc, c'était pas qu'un batailleur. C'est un gars qui apportait beaucoup d'éléments à l'équipe. Et je pense que tu regardes les Tom Wilson à Washington. Oui, c'est un gros bonhomme. T'sais, souvent, tu as tendance à dire il a commencé, mais il a quand même, il s'est amélioré, puis il amène beaucoup d'éléments à l'équipe. Et Chris apportait différents éléments à l'équipe des sénateurs.
Parfaitement raison là-dessus. Un autre membre des sénateurs, un ancien membre, lundi, on en a parlé auparavant, mais c'est sûr que tu vas regarder cette cérémonie-là, je suis convaincu. Alfredson fera officiellement son entrée au Temple de la renommée. Est-ce que toi-même, ta perception, tu auras une petite pensée quand tu vas voir justement là, les cérémonies?
Oui, c'est sûr. Premièrement, je pense que c'est très justifié pour Daniel. Je pense qu'il aurait dû être là avant. Lorsqu'on regarde sa carrière comme hockeyeur, sa carrière avec les sénateurs, l'impact qu'il a laissé à cette organisation, le lego qu'on peut dire, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre, je pense, qui était un membre de l'organisation qui a donné autant pour les sénateurs d'Ottawa. Aussi, il ne faut pas oublier, c'est son impact dans la communauté à Ottawa. C'est un joueur qui est arrivé ici très jeune, marié, des enfants, il s'est établi, il a demeuré à Ottawa, il vit encore à Ottawa, a été impliqué avec les sénateurs comme joueur, a été impliqué dans l'organisation et aussi dans la communauté. Et c'est une personne énormément respecté, énormément. C'est le visage des sénateurs d'Ottawa. C'est la personne que les gens identifient, les sénateurs. Donc, je pense que c'est très
pleinement mérité.
Tellement mérité de sa part. Puis je pense vraiment, vraiment content pour lui. Très, très bien deserved.
Tout le monde est très heureux pour lui. La capitale va sourire et va l'encourager, c'est sûr et certain. Puis moi, j'espère qu'un jour, je serai au milieu de la glace pour annoncer le retrait du, pas du chandail, mais du fanion à l'effigie de Jacques Martin au Centre Canadian Tire. On s'en reparlera un autre tantôt. On laisse ça là-dessus. Jacques, merci beaucoup. Bon week-end et on se reparle jeudi prochain.
Bon week-end à toi, Nicolas.
Bye bye. Jacques Martin mérite certainement, oui, un honneur aussi. Ben oui. Lequel? On verra bien. On s'en va une pause au retour. Deux autres blocs. On aura Patrick Grandmaître, l'entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa en hockey. Mais tout d'abord, on parle de football avec Marc Schreiber.
Bon, ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus, je sais pas quoi là où je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lecier, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
Les productions Monte Cristo, en affaires depuis 1983, est le spécialiste d'impression de toutes sortes dans la région. Nous sommes le choix numéro un en matière de qualité et de prix pour les entreprises québécoises et ontariennes de tous les secteurs. Que vous soyez gouvernemental, privé, dans l'industrie du voyage, scolaire, immobilier ou communautaire, le service demeurera professionnel avec des produits et un résultat d'excellente qualité. Nous sommes le choix pour tous vos besoins d'imprimerie et promotionnels. N'attendez plus. Visitez notre site web montecristoproduction.ca ou appelez-nous au 613-239-3838.
Bonjour tout le monde, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Venez vous réveiller avec moi et mes nombreux chroniqueurs qui vous parlent de votre vie dans tous ses aspects, en plus d'entendre le meilleur de la musique francophone. Aussi, ne manquez pas dès 8h30 uniquement Cazot avec le seul et unique Jean Cazot. C'est un rendez-vous.
Les Matins Uniques. Les Matins Uniques avec Sylvain Caron, du lundi au vendredi, 6h à Unique FM.
Salut, ici Antoine Pruneau du Genois. Vous êtes dans le vestiaire.
Et Tony Pruneau pour les intimes. Il y a un match jeudi soir ce soir. Un des sujets certainement avec notre ami Marc Schreiber. L'expert incontesté en football, mesdames, messieurs. Marc, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Nicolas.
Ça va bien, j'ai bien dit en football. Petit clin d'œil au Waterboy.
J'ai remarqué ça.
Les Falcons contre les Panthers, c'est pas nécessairement sur papier un grand rendez-vous, mais tout de même un match intra-division où les Falcons pourraient rattraper le premier rang. Donc, il y a de l'enjeu là-dedans.
Ça qui est particulier, on a affaire à une division où tout le monde a de la difficulté. Donc, à chaque fois que c'est le cas, il y a une forme de parité à l'intérieur même de la division. Mais les Panthers, vraiment, qui tirent de la patte. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà joué l'un contre l'autre. Déjà, c'est particulier. Ils ont rencontré donc, ça avait été un match complètement proche. Puis, c'est une équipe qui, les deux équipes, les Falcons et les Panthers, beaucoup, beaucoup de points, beaucoup de verges. En moyenne,
Marc, je sais pas, Marc, je sais pas si tu peux te déplacer, mais je pense qu'on a un problème de communication.
Oui.
Oui, un petit peu, mais on va essayer de rétablir tout ça. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien comme ça? Non, on vient de perdre. On va demander pour. Marc, est-ce que tu m'entends?
OK, là, ça fonctionne très bien.
Bon, ben excellent. Là, ça marche. Alors, merci, Marc, et on est de retour. Alors, pour les Panthers et les Falcons, deux équipes qui sont affrontées v'là deux semaines, puis il y avait une victoire des Falcons, n'oublions pas, là.
Exact. Et puis, ça s'est terminé par 3 points. Mais ce que je retiens surtout de ces deux équipes-là, qui ont quand même de la difficulté cette année, c'est qu'on concède beaucoup trop de verges à l'adversaire. En moyenne, on concède 400 verges par match à l'autre équipe, des deux côtés. Puis on a un bonhomme, tu sais, qu'on a connu dans le passé quand il jouait ailleurs, le carrière Baker Mayfield, on se dit, bah, c'est une belle acquisition, il devrait être en mesure de bien évoluer. Ben, au fond, quand tu regardes l'ensemble de toutes les statistiques de carrière, là, il se retrouve quelque part entre le 25e et le 34e rang de la Ligue. Donc, quand ton corps arrière ne performe pas, ça explique une fiche de 2 victoires, 7 défaites. Écoute, sérieusement, c'est rare que je dis ça, mais il y a quand même des bons matchs de hockey ce soir à la télé.
Ce qui va retenir ton attention en fin de semaine en NFL, ce sera quoi?
Il y en a 3. Première des choses, c'est la division qu'on appelle l'AFC, donc la division américaine de l'Est. Pourquoi? Parce que quand je nomme l'équipe de Buffalo, des Jets de New York, de Miami, ils sont tous des fiches d'au moins 6 victoires, 3 défaites. Et les Patriots aussi ont une fiche positive à 5-4. C'est extraordinaire. Ouais. 4 équipes dans la division, tout le monde joue au-dessus de 500, tout le monde joue bien. Et donc, je vais me faire un plaisir de regarder. Là, il y a quelques plateformes qui nous permettent de visionner plusieurs matchs en même temps, mais je vais garder mes yeux sur ces 4-là. L'autre chose que je retiens, bien, c'est la division qu'on vient tout juste de parler avec les Falcons et les Panthers. C'est celle de la Ligue nationale, la Conférence nationale, mais Sud, la division Sud. Là, je vous nomme les équipes. Tampa Bay, Atlanta, les Saints et les Panthers. Et dans ce cas-ci, ben, c'est toutes des équipes avec des fiches négatives. Mais voyez-vous, Tampa Bay mène la division. Ils ont gagné un match tout récent. Et eux autres, ils ont une fiche de 4 victoires, 5 défaites. Donc, c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens là-dedans qui se battent pour maintenir une première position, même s'ils ont des saisons difficiles. Puis la troisième chose, c'est un bout de temps, j'ai pas vu jouer Dallas. Et donc, Dallas joue à Green Bay. Bon, Green Bay va nulle part avec son carrière qu'on parle à chaque semaine. Mais Dallas, j'ai regardé en détail un peu comment ils ont joué leur dernier match, les statistiques qui en sont sorties. Et puis, une des choses qu'on souvent, tu sais, quand on regardait cette équipe-là de la dernière saison, on nommait des joueurs offensifs, explosifs, des vedettes même. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on concède même pas 2 touchés par match en moyenne. C'est donc la défensive qui fait vraiment une différence dans cette équipe-là, ce qui fait qu'on est allé chercher des victoires, des fois, beaucoup plus proches, même si l'attaque ne marque pas beaucoup de points. Donc, c'est la troisième chose qui va retenir mon attention ce week-end.
Oui, un match que je vais regarder, c'est sûr et certain, les Packers, qui préparent déjà l'année prochaine. Dans la Ligue canadienne de football, ce sont les finales de conférence, pardon.
Ouais.
On va commencer par l'Est avec Montréal qui va affronter Toronto. Comment tu vois ça?
Ben, premièrement, là, c'est vrai, on va commencer à jouer des matchs dans le grand froid. Là. Il va y avoir un match à Toronto, qui est la finale de l'Est, il va y avoir un match à Winnipeg. Et donc, ça, on le sait tout de suite qu'avec les belles séquences qu'on a eues la semaine passée, il y a un match qui s'est joué dans un dôme à Vancouver. Puis pourquoi j'en parle, Nicolas, c'est que pensez-y, là, si vous étiez, vous, exemple, receveur de passe, votre travail, c'est de courir des tracés de passe, attraper le ballon. Imaginez-vous quand il fait moins 10, moins 15, parce que c'est le cas présentement dans l'Ouest canadien, comment ça, on perd la dextérité. Surtout sur un match de 3 heures, 4 heures, t'as bien beau te réchauffer les mains à l'occasion, porter des gants, attraper un ballon. En plus, avec ce type de gants-là, c'est pas toujours simple. Il y a vraiment un impact. La météo va commencer à avoir un impact. Et moi, je m'attends à ce que, je pense que Montréal a une meilleure équipe dans le froid. Parce qu'ils sont vraiment habiles à courir avec le ballon. Et de l'autre côté, je pense que tout le monde va avantager Winnipeg parce que c'est une équipe qui a effectivement eu beaucoup de succès dans l'ensemble de sa saison. Mais attention, il y a quand même la Colombie-Britannique avec les Lions de Vancouver qui ont joué un bon match la semaine passée. Mais ils pratiquent puis ils jouent régulièrement dans un dôme aux autres. Est-ce qu'ils vont être affectés par le froid de Winnipeg? Je pense que oui.
C'est un bon point, très bon point. Puis il y a des affrontements très intéressants. Puis sérieusement, dans l'Ouest, ben, il faut regarder Rourke, le quart canadien, qui a l'occasion de se présenter pour la Coupe Grey, si jamais il l'emporte.
Oui.
Puis c'est rare qu'on voit un quart canadien pouvoir remporter le gros trophée. Alors on regarde ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Il y a également les universités qui sont en série également. Puis là aussi, il y a des matchs très intéressants à surveiller. Là.
Il y a 4 conférences de football universitaire canadien. Okay, il y en a un dans les Maritimes, une conférence au Québec, une conférence en Ontario, puis une conférence pour toutes les provinces de l'Ouest. Donc, il reste dans chacune des conférences 2 équipes. Il y a 8 équipes encore en vie au football universitaire canadien. Si je regarde dans l'extrême Est, dans les Maritimes, l'université qui s'appelle Mount-Allison qui va jouer contre Saint-FX, je pense qu'il n'y aura pas de match là. Saint-FX a gagné facilement tous ses matchs durant la saison. Si on se déplace un peu, on s'en va au Québec. Les Carabins de l'Université de Montréal vont jouer contre le Rouge et Or de l'Université de Laval. On dit qu'il y a déjà plus de 14 000 billets qui ont été vendus.
Oh, wow.
Et je pense que Québec va avoir l'avantage parce que la foule a toute une importance dans ce stade-là. Ensuite, on se déplace encore un peu. en Ontario, chez nous, qui les équipes qui nous ont donné du fil à le tordre, en tout cas avec les GGs, ben c'est Queens qui joue contre qui? La grande équipe de Western qui a jamais perdu de la saison. Je pense qu'il y a encore un avantage de leur côté. Et finalement, à l'extrême ouest, UBC, donc UBC qui va jouer contre l'Université de Saskatchewan. Et je pense aussi que Saskatchewan est bien avantagée parce qu'elle a une bien meilleure saison que l'adversaire qu'ils vont recevoir à la maison. Donc, 8 équipes, il y en aura 4 la semaine prochaine. On avance tranquillement pas vite vers la fameuse Coupe Vanier.
Meilleure des chances aux 8 formations. À quoi servent les mouvements avant le jeu? On parle de la capsule avec vos lunettes de coach. Tu vas nous expliquer ça. Puis tu vas même faire un comparatif entre la NFL et la Ligue canadienne.
Exact. Donc, tu sais, souvent, là, on voit le caucus qui se défait. On regarde le match à télé ou même quand on est sur place. Et là, l'offensive s'installe. Le carré s'approche, on l'entend crier des choses, puis là, il y a des joueurs qui se déplacent. Bon, les 5 gros bonhommes, une fois qu'ils sont installés, eux autres, pour le protéger, eux autres, ils n'ont pas le droit de bouger. Mais il y en a d'autres qui bougent. Puis il y a une grande différence en football canadien qui dit que tous ceux qui ne sont pas sur la ligne où le ballon est aligné, là, quand tu n'as pas le pied ou la main à terre avec cette même ligne imaginaire-là, si tu es derrière ça, tu peux bouger tant que tu veux. Vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, puis même plusieurs joueurs en même temps. Tandis que dans la NFL, il y a quelque chose de particulier, c'est un seul joueur à la fois peut se déplacer. Il ne peut jamais se déplacer vers l'avant. C'est juste vers la droite ou vers la gauche. Donc, il y a beaucoup plus de limites dans ce qu'on peut faire dans la NFL. Mais ça veut dire quoi tout ça? Bien, au fond, il y a deux choses qu'on essaie de deviner à l'avance, Nicolas. On essaie de deviner combien de joueurs défensifs sont plus en pression, vont attaquer le corps arrière, comparativement, ils vont reculer pour couvrir contre la passe. C'est juste ça qu'on essaie de déterminer. Et des fois, en déplaçant des joueurs, tu vas voir si de l'autre côté, ils s'ajustent ou s'ils s'en foutent complètement. Puis c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a un joueur qui va être en blitz. Ça va te vendre des fois cette chose-là. Mmh. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est ça te permet de savoir aussi le type de défensive que tu vas affronter contre la couverture de passe. Je te donne un exemple bien simple. Supposons que tu es un receveur de passe, tu es à l'attaque, tu es à gauche de la formation. Puis pendant que le carrière appelle son jeu, tu cours et tu traverses de l'autre côté pour t'en aller à la droite de la formation. Si personne ne te suivit, puis quand tu arrives l'autre bord, tu n'as quasiment même pas personne devant toi. Tout le monde le sait. Regarde, non, ça, ils vont jouer de la défensive de zone. Ils ne peuvent pas jouer en main, il n'y a même pas assez de joueurs de ce côté-là. Donc, des fois, il y a des choses aussi simples que ça. Quand partant, oh, quelle clé incroyable pour les corps arrière et pour les receveurs. Et donc, ça a une signification, toutes ces choses-là. Puis, avec vos lunettes de coach ce week-end, au lieu, encore une fois, de suivre le ballon ou quoi que ce soit, puis gardez vos yeux sur quand un joueur de l'offensive se déplace, ça change quoi du côté de la défensive? Ils ont-tu suivi le mouvement ou ça n'avait pas d'importance pour eux? Et donc, vous allez vous amuser à vous rendre compte qu'il y a de l'information qu'on peut aller chercher avant même que le ballon soit levé.
Je vais avoir l'air d'un expert en fin de semaine, puis je vais dire un gros merci à mon chum, Marc Schreiber. Un gros merci à toi. Bon match jeudi soir. Bon week-end. Et on se dit à mardi prochain, mon ami.
À mardi, bon week-end.
Marc Schreiber, mesdames, messieurs, notre expert football qui nous parle deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. À 18h05. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous suivre de plusieurs façons. Un, sur l'application disponible pour toutes les plateformes. Maintenant, c'est gratuit. Maintenant, également disponible en balado-diffusion sur toutes les plateformes les plus populaires. On est là également. Alors, merci de nous suivre de cette façon-là. On a uniquefm.ca, puis on est également sur le texto. Ça vous tente de nous parler une fois de temps en temps. Un, sur le Messenger, on est là. Mais également texto, 613-697-2292. On vous présente ce soir le hockey Véronique Lecieur des Sénateurs, les Sens sur la route contre les Devils du New Jersey. Les deux prochains matchs hyper importants pour la suite des choses. Pour l'avenir même du coach, je pense que oui, on va le dire comme ça. On veut mettre un terme surtout à la séquence de 6 défaites. Un gars qui n'en a pas de séquence de 6 défaites pour son club. On parle avec notre collaborateur, mais surtout l'entraîneur-chef du programme masculin de hockey des GGs de l'Université d'Ottawa. Pat Grandmaître, comment vas-tu?
Très bien, merci Nick.
Écoute, défaite de 4-2, victoire de 6-1 pour vos deux derniers matchs. Un, c'est quand même une grosse commande, là. Concordia, qui est la meilleure de la défensive dans l'Est en ce moment. Il y a quand même des choses positives qu'on a retenues sur cette défaite-là?
Oui, écoute, je vous dirais qu'on a joué un match, je veux dire, 60% de notre capacité. Donc, le résultat est quand même proche, là, le quatrième but dans un filet désert. Mais écoute, Concordia, meilleure défensive. Eux, leur défensive, elle est opérée avec l'attaque. Donc, c'est pas qu'ils ont des très bons défenseurs, c'est vraiment que ils ont quatre bons trios et ont des défenseurs rapides, sont tout le temps en mode attaque. Donc, écoute, ça a déboussolé une couple de nos joueurs. La vitesse était dans le menu ce soir-là. Et puis, on a perdu, mais on a beaucoup appris et on a bien rebondi le lendemain.
Ben, quand je dis qu'il y a quand même beaucoup de positifs, c'est que considérant que c'est la meilleure défensive, vous avez quand même eu 45 tirs cadrés sur l'adversaire. C'est quand même déjà là, vous êtes donné la meilleure des chances pour l'emporter.
Oui, non, c'est ça. Donc, on a retiré du positif, mais aussi, quand on regardait les vidéos, mais on a fait l'analyse du match, on a vu qu'on avait quelques lacunes à corriger. Donc, cette semaine, on a mis des bouchées doubles sur ces choses-là. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va sortir samedi à Oshawa.
Le lendemain, vous avez gagné 6-1 contre McGill. Un qui s'est démarqué, on va dire, Peter Stratis avec ses trois buts. Parle-nous de la performance des tiens. Puis on a bien rebondi suite à cette défaite-là.
Oui, exactement. Écoute, McGill était avant cette fin de semaine-là, c'était McGill qui était en deuxième place. L'équipe a juste perdu un match. Et McGill, c'est une équipe complète, peut-être pas aussi rapide, mais une équipe qui est très bien dirigée. Donc, on s'attendait à un match proche. Et écoute, des fois, ça la donne comme ça. Tout fonctionnait pour nous. Nos défenseurs se sont très bien portés à l'attaque. On a généré beaucoup d'offensives avec nos défenseurs, dont Peter Stralis, comme tu mentionnes. Peter n'avait pas marqué un but l'année passée. Donc, c'était son premier but et son premier tour du chapeau en carrière universitaire.
Alors, pourquoi ça a fonctionné pour lui? Est-ce qu'il a développé un accent plus offensif cette année? Est-ce qu'on peut dire ça?
Ben, je dirais. Mais Peter, c'est notre défenseur le plus mobile. C'est quelqu'un qui est très, très rapide. Il est quelqu'un qui a du bon edge work aussi, qui est difficile à enlever la rondelle. Un peu de malchance, mais c'est aussi un joueur qui a eu pas mal de problèmes de commotion cérébrale. Donc, manqué plusieurs matchs l'an passé et il en a manqué quelques-uns cette année. Donc, on était content là, pour lui. C'est quelqu'un qui est un de nos leaders, son assistant capitaine. Deux de ses trois buts, il s'est porté à l'attaque là, sur des 2-1 ou de monter à 4-2. Puis nos joueurs d'avant l'ont trouvé puis il a su lancer dans l'espace vide, dans le filet.
Est-ce que l'unité spéciale en avantage numérique, 2-5, a fait la différence pour vous?
Je te dirais que ça a été vraiment un match complet. Enfin, je peux pas dire que c'est juste ça qui a fait la différence, mais on a gagné la bataille des unités spéciaux à 5-5. On a bien géré la rondelle. On a passé plus de temps dans leur zone. Eux, ils ont un bon trio. On a été capable de les contrer avec une paire de défenseurs plus défensifs. C'était vraiment un match complet. Puis Jean-Philippe Tourigny a très bien gardé les buts là, quand ils ont été dangereux. Il a su faire les gros arrêts.
Bon, mais tu as décidé d'y aller à deux reprises avec Jean-Philippe Tourigny. Lui qui a une moyenne maintenant de 2.31 et un pourcentage de 922. Je ne veux pas taper le clou là-dessus, mais est-ce qu'on peut confirmer que c'est lui ton numéro un maintenant avec cette décision-là?
Écoute, je dirais pas non. Dans le sens qu'il continue à se prouver dans les matchs et puis à être un compétiteur dans les pratiques. JP, c'est pas un gros gardien de but, comme on l'a mentionné plusieurs fois, mais n'abandonne jamais. Sa plus grande force, je te dirais, c'était sa lecture de jeu. Lui, une passe à 2-1 ou à l'avantage numérique, une passe transversale, il est déjà rendu là, puis il est devant le tireur.
Le puck tracking?
Oui, il est excellent. Puis, écoute, à date, il nous a donné une chance de gagner. Il nous a même gardé dans le match par moment qu'on ne devrait peut-être pas être dans le match. Donc, tous les sorts qu'on lui donne, il les mérite en ce moment.
Mathieu Desgagné, le deuxième meilleur pointeur en ce moment avec une récolte de 7-3-10. D'ailleurs, dans le dernier match également, il y a une récolte de 1-1-2, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous parler justement de ce qu'il est pour vous, Mathieu Desgagné, puis ce qu'il fait de bien en ce moment en début de saison?
Oui, Mathieu, c'est un franc tireur, mais pas à la Ovechkin. Dans le sens que Mathieu adore lancer, c'est un gars qui a un lancer précis, mais pas un lancer ultra puissant qui va percer le gardien de but. Mais c'est quelqu'un qui est toujours bien placé. Les coéquipiers de trio qu'il y a, ils savent que quand on rentre en zone offensive, Mathieu, il est tout le temps à la recherche d'espace libre et de se préparer à lancer. Fait que même si l'avantage numérique, il est sur le flanc droit en tant que gaucher pour prendre des lancers sur réception. Et puis, en anglais, on dit « calm, cool and collected ».
Ouais.
C'est ça que c'est, Mathieu. Il n'est jamais vraiment super excité. puis il est vraiment, vraiment difficile sur lui-même. Il sait qu'il va être capable de performer le moment venu et demandé. T'sais.
Cool as a cucumber.
Ouais, exactement.
Parlons un peu des Sénateurs, si tu le permets. 6 défaites de suite pour les Sens. Ouais. Comment tu gères un vestiaire qui traverse une séquence comme ça?
Écoute, il y a plusieurs façons. Puis je pense que ça doit être... Si j'étais dans cette position-là, j'essaierais toutes sortes de choses. Je pense que le message doit être différent. Il faut trouver des solutions. Moi, ce que je vois des Sénateurs, je vois que c'est pas une équipe qui a abandonné. C'est pas une équipe qui a abandonné sur leur coach. Il y a beaucoup des chiffres, hein, l'analytique qui démontre que les Sénateurs sont là.
Temps de possession est là aussi, moi, définitif.
Ils tirent dans le pied constamment avec des erreurs en zone défensive ou des revirements en zone offensive qui leur coûtent cher. Peut-être pas les gros arrêts au gros moment, par moment aussi. Mais la grosse chose, je pense qu'ils doivent corriger. Pour moi, c'est les deux choses. C'est l'avantage numérique puis les erreurs en zone défensive.
Ouais.
Mais c'est pas le cas de ce qui se passait dans les années passées où ils s'accrochaient puis ils étaient tout simplement pas là, pas de calibre. Je pense qu'ils sont là.
Non, t'as raison là-dessus. Il y a une nette amélioration sur leur qualité de jeu d'ensemble. Mais il s'agit juste de profiter puis de terminer, de boucler ça. Puis comme tu le dis, on se tire dans le pied puis souvent à notre tour en ce moment.
Oui. Je pense aussi les lacunes sur le personnel défensif, là, on va se le dire. Des fois, on pense que la brigade défensive, elle est importante à prévenir des buts, mais la brigade défensive aide beaucoup à passer beaucoup de temps en zone neutre, en zone offensive, à créer des revirements puis à relancer l'attaque. On pense souvent, OK, on a la misère à défendre, donc on accorde trop de buts. Oui, mais une bonne brigade défensive aide beaucoup ton offensive et tes chances de marquer. Fait en ce moment, là, je pense qu'avec Zoom qui n'est pas là, il y a des problèmes, il y a des trous dans cette défensive-là. Donc, mais malgré ça, ils sont souvent dans les matchs.
Une des choses qu'on doit améliorer également, est-ce que c'est la gestion du temps de glace de Thomas Chabot, d'après toi? Il a encore joué là, plus de 29 minutes, 29-06 dans le dernier match. Ouais. Puis c'est là qu'on disait qu'on ne semble pas, on semble répéter les erreurs de l'an dernier. Je me trompe pas en disant qu'au-delà de 24 minutes, dans le cas d'un Chabot, là, tu l'exposes à plusieurs erreurs, non?
Oui, mais selon moi, ça revient au problème que si tu manques d'effectifs dans ton top 6, ça démontre la confiance que les entraîneurs ont, ouais, mettons, dans le défenseur 4, 5 et 6. Si Thomas Chabot, il joue 25 minutes et plus de 25 à 30 à chaque game, c'est parce qu'ils ont peur d'en donner plus à d'autres. Donc, c'est un peu symptomatique de « ben j'ai pas confiance à mon défenseur 4, 5, 6, donc je vais continuer à remettre Chabot de sa glace. » Mais un Chabot qui est fatigué, ça va être un Chabot un peu moins rapide, un peu moins fort sur son hockey, puis un peu moins frais mentalement pour prendre des bonnes décisions. Puis on voit un peu ce qui arrive en ce moment. Un joueur élite, il est à son maximum, ça peut arriver là, de 25 à 27, mais selon moi, ça devrait être de 23 à 25.
Du coup, on se rompra pas, Pat. Ils sont mieux de gagner à soir.
Écoute, un match comme ce soir contre l'équipe, je pense que c'est la meilleure équipe, c'est l'équipe de l'heure en ce moment. Ça prépare les joueurs mentalement. D'après moi, les joueurs arrivent un peu plus aiguisés et prêts pour le défi. Puis tu gagnes celle-là, ça donne un gros vague de positivisme.
Contre Ontario Tech et Nipissing en fin de semaine, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Puis pourquoi pas 2 victoires pour les GGs. Pat, toujours un plaisir. On se dit bon week-end et à la semaine prochaine.
Merci, Nick. Go Sens Go.
Yes, sir. Patrick Grandmaître, mesdames et messieurs, l'entraîneur-chef du programme masculin en hockey des GGs de l'Université d'Ottawa. Ça fait conclusion, ça clôt l'émission, tout simplement, version écourtée. Vous aurez compris qu'on a un avant-match présenté par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dans quelques instants. Puis par la suite, ben, ça sera le hockey Véronique Lecieur des Sénateurs. Véronique Lecieur qui vous invite à encourager vos Sénateurs ce soir qui en auront grandement besoin contre les Devils à Newark. 7 victoires de suite pour la troupe de Lindy Ruff. 6 défaites de suite pour celle de DJ Smith. Merci tout spécial à Mick Lafleur pour la mise en onde. Merci à tous nos invités, Patrick Grandmaître, Marc Schreibert, Jacques Martin, Renaud Lavoie, Vincent Tremblay. Merci à vous d'avoir été là. Si vous continuez la soirée avec nous, ben gênez-vous pas, mettez-vous sur le pouf, puis sortez le jus de pomme. On aura un gros match. Entre-temps, ben demain,
Ça sera les meilleurs moments dès 16h. Puis, bon hockey ce soir. Salut tout le monde!